Nous sommes le mardi 2 juillet 2024, il est 15h30 en temps universel. Madame, monsieur, bienvenue à cette session d'information présentée par Nanit Talani. 70 djihadistes ont été tués par une offensive militaire dans la zone du lac Tchad. Le Mali endeuillé par une nouvelle attaque commise par des hommes armés non identifiés. Au Kenya, les manifestants ont organisé de nouveaux rassemblements pour réclamer le départ du président Ruto et la démission des fonctionnaires corrompus. Aux Comores, le président Azali Assoumani confie la coordination des affaires gouvernementales à son fils Nour El Fat. Dans notre section magazine, nous reviendrons sur l'interview exclusive que nous avions sur l'avancée du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo.
Puisqu'il n'y a plus de système de protection, il n'y a plus d'armée. Et comme il n'y a plus d'armée, toute cette région devient véritablement un champ de liberté où le M23 et l'AFC peuvent directement se déployer et occuper ces terrains-là.
N'oubliez pas notre page magazine, et notre page économie et les sports. Mais en attendant, voici le journal. Le Mali, endeuillé par une attaque commise par des hommes armés non identifiés qui ont attaqué le village de Digoubomo à une vingtaine de kilomètres de la ville de Badjangara. Une vingtaine de personnes ont été tuées. Les témoins, joints par notre correspondant, soutiennent que les assaillants sont venus en deux groupes pour attaquer le village. L'un des groupes s'en est pris au groupe d'autodéfense du village et le deuxième aux habitants qui célébraient le mariage. Un mariage plutôt. Les forces armées maliennes et les autorités de Badjangara ont effectué un déplacement sur les lieux où s'est déroulée l'attaque. Toujours au Mali, un chef militaire d'un groupe armé allié au pouvoir a été assassiné hier soir à Gao, dans le nord du pays, après avoir été impliqué dans la mort d'un responsable de l'organisation État islamique. C'est ce qu'a indiqué son mouvement dans un communiqué. Ismaïl Ag Aramat, un chef militaire du mouvement pour le salut de l'Azawad, avait participé en avril à l'élimination d'Abu Huzaifa, dit Hugo, un haut responsable de l'organisation État islamique qui combat l'armée malienne dans le nord et l'est du pays. Un responsable du MSA a imputé sa mort à des terroristes. Une offensive militaire a tué 70 djihadistes dans la zone du lac Tchad à cheval entre le Nigeria, le Cameroun et le Tchad, annonce l'Alliance militaire régionale, la FMM, créée en 1994 pour lutter contre la criminalité transfrontalière et les djihadistes. L'armée tchadienne avait fait état du même bilan dans un communiqué dimanche en mentionnant plus de 70 terroristes mis hors d'état de nuire par la force d'intervention rapide, une unité d'élite récemment créée par le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Au Kenya, la police anti-émeute a tiré des grenades lacrymogènes sur des manifestants réunis ce mardi à Nairobi pour réclamer la démission du président William Ruto. Cette nouvelle manifestation intervient alors que le retrait d'un projet de loi de finances contesté il y a une semaine n'a pas mis fin aux violences meurtrières qui secouent le pays. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Outre le départ de William Ruto, les manifestants réclament le licenciement des fonctionnaires corrompus, responsables selon eux de la situation financière catastrophique du pays. Des nuages de gaz lacrymogènes ont envahi le centre-ville de Nairobi, après que des manifestants ont allumé des incendies le long du principal axe routier de la capitale et jeté des pierres sur les policiers dans le quartier d'affaires. Des manifestations ont également eu lieu dans le reste du pays, notamment dans la ville portuaire de Mombasa, au cri de « Ruto doit partir ». Le calme n'est pas revenu depuis que William Ruto a fait marche arrière le 26 juin en retirant son projet de loi. Les manifestants sans véritable leader, mais très organisés, sur les réseaux sociaux rejetant les appels au dialogue du chef de l'État. Des dizaines de Kenyans ont été tués lors de manifestations et d'affrontements avec la police depuis la présentation de la loi de finances le 18 juin, la plupart d'entre eux ayant été abattus par la police mardi dernier lorsque des manifestants ont tenté de prendre d'assaut le Parlement pour empêcher les députés de voter les fortes hausses d'impôts prévues.
Remaniement aux Comores, le président Azali Assoumani confie à son fils un poste au sein du gouvernement. Nour El Fat aura la responsabilité de coordonner les affaires gouvernementales. L'opposition dénonce une tentative de créer une dynastie. Le point avec Alexandrine Holunion.
Le président Assoumani a annoncé un nouveau gouvernement hier en fin de journée. Il a nommé Ibrahim Mohamed Abdourazakou ministre des Finances, Saïd Omar Oumadou ministre de la Justice et reconduit Youssoufa Mohamed Ali au poste de ministre de la Défense. Selon les analystes politiques, les dirigeants de l'opposition et les médias locaux, Azali Assoumani semble préparer son fils à sa succession en le nommant dans le gouvernement. Ce remaniement fait suite à une élection tendue qui s'est déroulée en janvier et qui, selon les opposants, a été entachée de fraude électorale. Une personne a été tuée et au moins 25 autres blessés lors de violentes manifestations dans le pays. Les réformes constitutionnelles de 2018 aux Comores ont étendu l'obligation de rotation de la présidence entre les trois îles principales des Comores tous les 5 ans à 10 ans. Les Comores, qui comptent environ 800 000 habitants, ont connu une vingtaine de coups d'État ou de tentatives de coups d'État depuis qu'elles ont obtenu leur indépendance de la France en 1975.
Les critiques se multiplient en Afrique du Sud sur la taille du gouvernement inédit de coalition avec ses 32 ministres et 43 ministres adjoints. Chaque ministre gagnera plus de 126 000 euros par an hors avantage, tandis que les vice-ministres gagneront plus de 111 000 euros, assure le journal officiel. Les avantages comprennent une sécurité d'État élaborée ainsi que des résidences au Cap et à Pretoria. Le coordonnateur humanitaire de l'ONU pour la RDC condamne l'attaque dans l'est du pays d'un convoi humanitaire qui a fait 2 morts dimanche soir sur fond de combat entre l'armée et les rebelles du M23. L'ONG Tearfund a confirmé mardi dans un communiqué la mort tragique de ces agents qui étaient portés disparus après cette attaque près de Butembo dans le nord de la province du Nord Kivu.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a dénoncé un dangereux précédent après la décision de la Cour suprême du pays d'étendre l'immunité pénale du chef de l'exécutif américain. Une victoire pour son adversaire Donald Trump dans le procès fédéral pour tentative présumée d'inverser les résultats de l'élection de 2020 est une nouvelle fois retardée. Jacques Aristide.
Pour la plus haute juridiction américaine, le président ne jouit d'aucune immunité pour ses actes non officiels, mais il a droit au moins à une présomption d'immunité pour ses actes officiels. La Cour suprême renvoie donc le dossier au tribunal de première instance pour déterminer quels actes sont potentiellement immunisés de poursuites pénales. L'ancien président Donald Trump, candidat républicain dans l'actuelle course à la Maison-Blanche, s'est félicité d'une décision historique, assurant qu'elle invalidait l'essentiel des charges dans les 4 procédures pénales contre lui. Lors d'une allocution télévisée hier soir, son successeur et rival démocrate Joe Biden a lui fustigé le jugement. Les pouvoirs de président ne seront plus limités par la loi, a-t-il dit. Par cette jurisprudence, Donald Trump sera enhardi à faire ce qu'il veut, quand il veut, en cas de victoire à la présidentielle de novembre, a ajouté le président Biden. Pour le sénateur démocrate Richard Blumenthal, la Cour a tout simplement accordé un permis d'autoritarisme à tous les présidents américains. De leur côté, plusieurs élus républicains, pour qui les poursuites contre Donald Trump sont politisées, accueillent favorablement le jugement, qui est, selon eux, en ligne avec la Constitution.
Les Philippines et la Chine ont convenu d'une désescalade des tensions en mer de Chine méridionale après une récente confrontation entre des gardes-côtes chinois et des membres de la marine philippine dans ces eaux disputées par les deux pays. En France, le désistement de plus de 200 candidats de la coalition de gauche du Nouveau Front Populaire et du camp présidentiel arrivé en troisième position a réduit le nombre de triangulaires au second tour des élections législatives de dimanche prochain. Ces retraits visent à empêcher le Rassemblement national et ses alliés de former un gouvernement qui serait historique, l'extrême droite n'ayant jamais été au pouvoir en France depuis la Seconde Guerre mondiale. C'était tout pour ce tour d'horizon de l'actualité. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Concentrons-nous à présent sur les dernières nouvelles financières et économiques avec Jean-Roger Bion.
Le Niger reçoit $1 milliard de la Banque mondiale pour renforcer la sécurité alimentaire. L'institution entend offrir des solutions durables pour faire face aux défis agricoles et climatiques du pays. Le Niger compte plus de 3,4 millions de personnes en situation de sécurité alimentaire aiguë, selon la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire prépare une révision du code minier de 2014. Le secteur minier ivoirien représente 5% du produit intérieur brut et la production d'or, principal produit exploité, est encore en dessous du potentiel géologique du pays, estiment les autorités ivoiriennes. Cette révision interviendrait dans un contexte où les ressources minérales du pays font l'objet d'un intérêt croissant des investisseurs. L'administration du président Joe Biden a proposé ce mardi une nouvelle réglementation visant à protéger certains travailleurs exposés à de fortes températures alors que les vagues de chaleur se multiplient en raison du changement climatique. Cette réglementation, qui pourrait couvrir environ 35 millions de travailleurs, si elle est adoptée en l'état après une période de débat public, concernerait les livreurs, les employés du secteur du bâtiment ou de la cueillette, ou encore ceux dans les restaurants, notamment en cuisine.
Intéressons-nous maintenant aux nouvelles sportives. Nous accueillons Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Nanit, bonsoir à tous.
Les nouvelles de l'Euro pour commencer.
Oui, le Portugal a arraché sa qualification en quart de finale après avoir battu la Slovénie au tir au but. 3-0 à Francfort. Le score était de 0-0 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Le gardien portugais Diogo Costa a écarté les 3 tirs au but des Slovènes pour permettre aux siens de se qualifier et de retrouver la France qui est venue à bout de la Belgique 1-0 vendredi à Hambourg dans le dernier 8e de finale. Ce soir, la Turquie fait face à l'Autriche.
Autre compétition, la Copa América. Les hôtes américains sont éliminés.
Team USA a été battu par l'Uruguay 1-0 à Kansas City dans le Missouri. Les États-Unis, pourtant protégés en tant que tête de série lors du tirage au sort, sont éliminés dès le premier tour. Sur leur sol, un mauvais signal à 2 ans de la Coupe du Monde qu'ils co-organiseront avec le Canada et le Mexique. De son côté, le Panama s'est défait de la Bolivie 3-1 à Orlando. Un deuxième succès qui lui offre une place en quart.
Cyclisme, Binyam Girmay entre dans l'histoire du Tour de France.
Le coureur érythréen a remporté hier au sprint la 3e étape du Tour de France à Turin. Binyam Girmay s'est imposé devant le Colombien Fernando Gaviria dans une fin de course chaotique avec une importante chute collective à un peu plus de 2 km de l'arrivée. Le coureur d'Intermarché qui offre à l'équipe belge son premier succès sur le Tour est le 3e Africain à s'imposer sur la grande boucle après les Sud-Africains Daryl Impé et Rob Hunter à 24 ans. Il écrit une nouvelle page importante pour les cyclistes africains. 2 ans après sa victoire d'étape sur le Tour d'Italie, le Slovène Tadej Pogačar a remporté en solitaire la 4e étape courue ce mardi à Valoir et reprend le maillot jaune de leader.
En basketball ici, en NBA, les transferts de joueurs se poursuivent.
La gâchette Klay Thompson, dont le départ des Golden State Warriors a été confirmé dimanche, s'est mis d'accord avec Dallas pour un bail de 3 années, dont la 3e en option à son profit pour $50 millions, selon ESPN. Également sur le marché, l'ailier All-Star Paul George s'est engagé avec les Sixers de Philadelphie en provenance de Los Angeles Clippers. Le joueur de 34 ans a signé un contrat de 4 ans pour un montant de $212 millions, rapporte la chaîne ESPN et The Athletic. Après 5 ans passés aux Clippers, il est attendu en Pennsylvanie comme le 3e élément du redoutable trio Big Three qu'il va former aux côtés du pivot vedette Joel Embiid et l'arrière Tyrese Maxey.
Toujours ici en NBA Yakuba, les Celtics en vente 2 semaines après leur titre.
La famille qui contrôle le groupe propriétaire Boston Basketball Partners, LLC, a décidé de vendre l'équipe pour des raisons de management des biens et de planification familiale, écrit l'équipe dans un communiqué. La franchise a été estimée à $4,7 milliards par le magazine Forbes en octobre dernier. L'entrepreneur Wyke Grusbeck est à la tête du groupe qui avait acheté les Celtics pour $360 millions en 2002 et espère rester le représentant de la franchise auprès de la NBA jusqu'en 2028, année prévue de départ total de la famille de l'actionnariat.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Enfin, voici notre section magazine avant de clore ce journal. En République démocratique du Congo, le mouvement du M23 continue à prendre beaucoup de cités et villages dans la partie est. Après Kanyabayonga, le M23 a occupé Kirumba et continue de progresser vers le nord. Interrogé sur ce que présage cette progression, le politologue Bob Kabomba de l'Université de Liège considère que cette nouvelle occupation du M23 s'explique par l'absence de dialogue entre le gouvernement de Kinshasa et le M23 au grand dam de la population du Nord Kivu dans son ensemble.
Cela présage beaucoup de choses. C'est que d'une part, l'armée congolaise avait mis tous ses moyens dans ces deux villes, à Kanyabayonga et à Kirumba. Et donc, pour le gouvernement congolais et l'armée congolaise, c'était des verrous qui pouvaient empêcher de pouvoir au M23 d'aller dans ce qu'on appelle l'espace Nandé. Or, ces deux verrous ont sauté. Et quand les deux verrous sautent, ça veut dire que la voie, elle est libre, puisque tous les moyens militaires étaient concentrés vers ces deux centres. Et une fois que ces deux centres ont été pris par les rebelles, cela veut dire que la route, elle est ouverte, vraiment ouverte, de Kirumba jusque Lubero centre, qui est un centre assez important, aussi très important en termes des négoces, et aussi Butembo. Et quand on dit Butembo, Butembo, c'est la ville, on va dire la ville cousine de Beni. Et Beni, ça veut dire que toute cette zone-là, c'est une zone qui devient dégagée pour les rebelles qui peuvent prendre dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, assez facilement, puisqu'il n'y a plus de système de protection, il n'y a plus d'armée. Et comme il n'y a plus d'armée, donc toute cette région devient véritablement un champ de liberté où le M23 et l'AFC peuvent directement se déployer et occuper ces terrains-là.
La Kanyabayonga a été pratiquement pris par les rebelles et aujourd'hui on parle des Kirumba. Qu'est-ce que ça présage un peu en termes de progression de ces rebelles aujourd'hui?
Alors il y a plusieurs explications pour comprendre ce qui est en train de se passer sur le terrain. Quand vous regardez la carte, vous voyez bien qu'il s'agit d'une progression non pas vers le sud mais vers le nord, ce qu'on appelle le Grand Nord Kivu. Ce Grand Nord Kivu, c'est une région qui est pratiquement mono-ethnique, qui est peuplée de ce qu'on appelle l'ethnie Nandé. L'ethnie Nandé, c'est une ethnie assez particulière qui a fait toute sa fortune et toute sa gloire dans l'histoire comme étant des commerçants, des grands commerçants qui font du commerce non seulement au Congo, mais aussi dans toute la région des Grands Lacs, c'est-à-dire au Soudan, c'est-à-dire en Ouganda, c'est-à-dire aussi dans d'autres pays. Mais aussi, ils ont quand même une capacité d'influence assez grande. Et donc cette population, elle n'est pas une population guerrière, c'est une population commerçante. Et toutes les rébellions qui ont déjà eu lieu en RDC, vous allez remarquer que très peu de conflits se sont passés dans cette zone. Quand je dis conflit, je mets de côté ce qu'on appelle toutes les milices avec les ADF qui sont dans d'autres dynamiques. Mais conflits armés, guerres, comme on en connaît dans le Petit Sud, on est autour de Goma, Masisi, Rutshuru, là dans cette partie, il n'y en a pas.
C'était le professeur Bob Kabomba qui était au micro d'Antoine Roger Bolamba.
Restez branchés sur VOA Afrique à Bukavu sur 97.4 FM.
Le Nigeria est l'un des principaux producteurs mondiaux de gingembre, mais une épidémie massive de maladies fongiques l'année dernière a entraîné des pertes de plusieurs millions de dollars. Le gouvernement nigérian a lancé une intervention d'urgence pour aider les producteurs de cette plante. Timothy Obiezu nous propose ce reportage depuis Kaduna, réputé pour son gingembre. Le récit est de Jacques Aristide.
En 2023, l'agriculteur Paul Solomon Aboui a planté un hectare de gingembre dans son champ de Katcha, dans le nord-ouest de l'état nigérian de Kaduna. Mais en juillet de la même année, la maladie du gingembre a frappé sans avertissement et aucun de ses rhizomes n'a survécu.
Je m'attendais à plus de 400, voire 500 sacs de gingembre, mais au final, rien.
La maladie provoque la pourriture des rhizomes souterrains et fait dépérir la plante. Comme Aboui, des milliers de producteurs de gingembre ont du mal à faire face aux pertes.
Certains sont morts, certains sont tombés malades psychologiquement, comme nous. Nous l'avons ressenti psychologiquement. Nous avons simplement fait comme si de rien n'était.
Le Nigeria est l'un des principaux producteurs mondiaux de gingembre, en concurrence avec l'Inde et la Chine. En 2021, le pays produisait près d'un sixième de l'offre mondiale. Selon le gouvernement, l'épidémie a provoqué des pertes évaluées à environ 6,5 millions de dollars et a affecté autour de 7 000 agriculteurs, principalement dans le sud de l'état de Kaduna, région décrite comme la plaque tournante du gingembre au Nigeria. En ce mois de juin 2024, environ 5 000 agriculteurs ont commencé à recevoir du gouvernement des plants, des engrais et des produits agrochimiques. Les autorités tentent également d'inculquer aux agriculteurs locaux de meilleures méthodes agricoles. Mohamed Ibrahim est le secrétaire exécutif du Fonds national de développement agricole.
Ce que nous faisons actuellement consiste à mettre en place une approche à deux volets. D'un côté, nous voulons aider les agriculteurs à effectuer une rotation de culture pour qu'ils puissent s'assurer de leur gagne-pain. Nous leur avons fourni ce dont ils ont besoin pour planter du maïs et du sorgho. D'un autre côté, nous espérons que la rotation des cultures pourra briser la chaîne de cette maladie.
Daniel Bitrus, autre producteur de gingembre, a bénéficié du programme gouvernemental mais trouve dommage qu'il ne soit pas arrivé plus tôt.
Nous aurions voulu que ces aides aient été proposées vers avril. Les semis précoces donnent de bons résultats.
Abuja indique que les recettes des exportations de gingembre pourraient ajouter 6,3 milliards de dollars à l'économie du Nigeria d'ici 2030. Mais les agriculteurs affirment qu'avec une intervention gouvernementale limitée, cet objectif n'est pas susceptible d'être atteint à la date prévue, même en tenant compte du facteur de la chance.
La Cour suprême des États-Unis a statué lundi partiellement en faveur de Donald Trump, qui invoquait une immunité totale face aux poursuites judiciaires le visant. La Cour a statué que l'ancien président bénéficiait de l'immunité absolue pour la question des discussions avec le département de la justice, mais a renvoyé à une autre cour le soin de déterminer si l'ex-président a le droit à l'immunité pour d'autres catégories. Pour une analyse, Jean-Roger Bion a joint à Annapolis dans l'État du Maryland Jean-François Seznec, politologue, directeur de Lafayette Group.
Il est certain qu'un président en charge d'un pays ne peut pas être toujours en train de se poser des questions sur savoir si les actes qu'il fait, même si ce sont des actes en bonne conscience, sont des actes qui vont l'amener en prison un peu plus tard. Donc il est assez normal que la Cour de justice trouve une présomption d'innocence dans beaucoup de cas. Et je pense que la décision de la Cour suprême, en fait, est assez logique et peut-être assez bonne pour tous les présidents, quels qu'ils soient d'ailleurs. C'est bien sûr que les gens auraient préféré que ce soit pas Trump, mais il est certain en général que pour le système américain de séparation des pouvoirs, que la décision est en fait assez correcte.
Au sein de la Cour elle-même, il y a des juges, les progressistes notamment, qui reprochent à l'instance judiciaire, je cite, d'ignorer l'équivalente nécessité de la retenue. Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela vous inspire?
Je pense qu'ils ont peur que ça donne trop de liberté aux gens. Par exemple, ils ont cité le fait que ils pourraient utiliser des groupes militaires sous les ordres du président pour assassiner des gens. Mais en fait, ça se passe déjà, hein, parce qu'ils ont ces groupes militaires qui assassinent des gens dans d'autres pays. Bien sûr, alors évidemment, s'ils le faisaient aux États-Unis, bien sûr que ça serait beaucoup plus différent et beaucoup plus grave. Donc ils ont peur de ça parce que c'est pas très clair effectivement dans la décision.
Il y a aussi le président Joe Biden lui-même, le président en fonction, qui est monté au créneau pour critiquer la décision de la plus grande instance judiciaire des États-Unis. Est-ce qu'il faut craindre une crise politico-judiciaire?
Non, je ne pense pas vraiment, parce que je pense que la décision est pas extrêmement, elle n'est pas encore très claire, si vous voulez. Il y aura encore beaucoup de décisions qui vont devoir être prises pour pouvoir clarifier tout ça. Mais Je pense quand même qu'il y a, c'est assez vague pour que l'instance exécutive, si vous voulez, ne soit pas toujours en difficulté avec l'instance judiciaire ou l'instance même les juges et puis l'exécutif et la chambre des députés. Donc, je pense que c'est pas trop grave de mon avis, en tous les cas, pour la déstabilisation des organismes américains.
C'était l'analyste Jean-François Seznec, directeur de Lafayette Group. À Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, un expatrié italien tient un commerce assez unique pour un étranger. Il vend du porc grillé, un plat très apprécié. Des détails dans ce reportage de Gildas Da, relaté par Mohamedou Oumfa.
Lorsque Boy Tarcisio est arrivé d'Italie au Burkina Faso en 2014, il avait l'intention de créer une entreprise de location de camions. Quand cela a échoué, Tarcisio s'est inspiré de son enfance en Italie, où il préparait et mangeait du porc grillé avec sa famille.
Et puis on a essayé là, et puis ça marchait. Ça a plu cette viande, et puis j'ai continué.
Tarcisio s'est installé définitivement au Burkina Faso. Il dit qu'il s'est senti le bienvenu ici.
Je me suis trouvé bien, j'ai des amis, j'ai tout, hein, pour vivre. J'ai pas trouvé difficulté à m'intégrer avec eux.
Après s'être installé à Ouagadougou, il a épousé une Burkinabé et a eu des enfants. Aujourd'hui quinquagénaire, Tarcisio a 3 employés burkinabés qu'il a formés sur le tas. Timothée Bassolet est l'un d'eux.
C'est un bon patron. Il nous a appris comment il faut cuire le porc. Et il y a beaucoup de choses aussi, beaucoup de techniques qu'il nous a appris aussi. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un de bon aussi. Souvent, quand on a des difficultés aussi, il est tout le temps à côté. L'activité, en tout cas, ça me permet beaucoup de nourrir ma famille. Bon, c'est un Italien, mais maintenant, on dit qu'il est burkinabé. Hein. Il n'est plus italien.
Le porc grillé de Tarcisio est très populaire parmi ses clients à Ouagadougou. Des clients comme Prosper Sanon, un habitué de la cuisine de Tarcisio depuis des années.
Et pour la petite histoire, je peux vous dire quelque chose d'assez particulier. Mon épouse n'avait jamais mangé le cochon avant. Et lorsqu'elle a regardé la cuisson, finalement, elle a adhéré. Et ben voilà, elle mange depuis tout ce temps.
L'activité de Tarcisio a été affectée par la guerre en cours dans le pays du Sahel, qui a fait environ 12 000 morts en 2023. Malgré cela, Tarcisio affirme qu'il n'a pas l'intention de retourner en Italie.
Non. Je vais rester ici. Et je souhaite vraiment une chance à tout Burkinabé que cette guerre va finir tout de suite.
Boy Tarcisio affirme qu'il continuera à faire ce métier qu'il aime et espère que la guerre prendra fin pour que l'économie et son entreprise puissent se développer et prospérer.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, sans parler du Ghana, le Kenya, la Tanzanie et l'Afrique. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal Canal.
C'est ici que prend fin cette session d'information. Merci de nous avoir suivis pour ce journal. Au micro, Nanit Talani, à la technique, Michel Joseph. Pour plus d'informations et des mises à jour en continu, rendez-vous sur notre site internet VOA Afrique et nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, X. Toute l'équipe de VOA Afrique se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. Restez à l'écoute pour plus de programmes passionnants à venir. À bientôt.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui.